Et on rejoint maintenant Marcel Dugas, un petit peu plus tard que prévu. J'avais un mauvais numéro de téléphone, Marcel, mais ça n'arrivera plus. Bonjour.
Bonjour, ben, c'est le genre de choses qui arrivent.
Bien oui, dans les meilleures familles. Alors aujourd'hui, parlant de famille, vous nous parlez d'un week-end où on a battu tous les records en termes de mariages célébrés au Québec, mais il faut dire que les couples avaient une bonne raison de vouloir se marier à ce moment-là.
Hélène, je vous lis ce que le journal La Patrie en disait. Cupidon a frappé le plus dur coup de toute sa carrière, et ce coup a eu des répercussions à travers tout le Canada. Le petit dieu ce matin doit se reposer, et il se reposera longtemps, car les mariages seront rares à l'horizon pour plusieurs mois à venir. Plusieurs agences matrimoniales ferment leurs portes aujourd'hui. On a dit que c'était une course au mariage qui s'était produite au cours de la fin de semaine des 13 et 14 juillet 1940. On l'a qualifié de ruée vers les églises et même de blitzkrieg d'amour. C'est probablement la première et la dernière fois que ces deux termes-là étaient utilisés ensemble. Le Blitzkrieg, c'est la méthode de guerre éclair que les Allemands avaient utilisée pour conquérir une bonne partie de l'Europe en 1939 et 1940. Mais l'histoire de ce Blitzkrieg d'amour débute en réalité pendant la précédente guerre, donc la Grande Guerre de 1914. Le Parti conservateur du Canada, de Robert Borden, avait imposé la conscription, donc on obligeait les hommes à aller se battre en Europe, qu'ils le veuillent ou non, et les Québécois, très majoritairement opposés à la conscription, ne lui ont jamais pardonné, pas plus qu'à son parti longtemps après qu'il eut quitté la scène. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le premier ministre libéral, cette fois-là, Mackenzie King, s'est engagé à ne jamais faire la conscription pour le service extérieur. C'était une promesse qui s'adressait surtout au Québec, qui était le noyau dur du vote libéral. Il a dû revenir sur son engagement. On a organisé un plébiscite en 1942, et le Canada anglais l'a libéré de sa promesse contre l'avis du Québec, à qui on avait fait la promesse. C'est un peu tordu comme histoire, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Mais avant le plébiscite, donc à l'été 1940, King fait voter la loi sur la mobilisation des ressources nationales. L'Allemagne, à ce moment-là, allait de succès en succès. On venait de vaincre la France avec une rapidité qui avait sidéré tout le monde. On se disait que la Grande-Bretagne était la prochaine sur la liste. Le Canada envoyait des volontaires se battre, mais la pression était forte pour qu'on en fasse plus. La loi sur la mobilisation des ressources nationales prévoyait notamment l'enregistrement des hommes célibataires à partir de 21 ans qu'on soumettrait à un entraînement militaire de 30 jours. C'est passé à 4 mois par la suite. Au départ, c'était 30 jours. Et on pouvait ensuite les assigner à une unité de milice et les utiliser pour la défense du territoire canadien. Il n'y avait pas de conscription pour le service outre-mer à ce moment-là. C'est venu après le plébiscite dont je vous parlais il y a un instant. Le gouvernement a annoncé que les hommes mariés seraient placés au bas de la liste de cette mobilisation-là, et on a fixé une date limite, le 15 juillet. Seraient considérés comme mariés au fin de l'enrôlement pour service militaire au Canada tous les hommes qui s'étaient passé la corde au cou avant le 15 juillet 1940. On annonce ça aux communes dans la soirée du 12 juillet, le temps que les radios et les journaux rapportent la nouvelle. La plupart des gens l'ont appris samedi matin le 13. Ça laissait donc 2 jours aux hommes qui souhaitaient éviter d'être enrôlés pour se marier. Et cette fenêtre s'est transformée en une ruée vers les églises comme on n'en avait jamais vu avant et on n'en a probablement jamais revu par la suite. Et donc, ça a été vraiment, comme je le disais, un blitzkrieg, une ruée vers les églises. Malheureusement, j'ai bien cherché un bilan complet, j'en ai pas trouvé, c'est très dommage, mais les chiffres donnent quand même une bonne idée. On a parlé qu'il y avait eu 300 mariages à Montréal. Selon moi, c'est trop peu. Les journaux du moment nous donnent des chiffres par paroisse, 40 à tel endroit, 35 ici, 25 là. En additionnant les quelques paroisses mentionnées, on arrive déjà presque à 300, donc c'est une estimation très conservatrice selon moi. On rapportait aussi 195 couples mariés à Québec et dans les environs, 150 dans la région de Hull, 125 à Sherbrooke, 95 à Drummondville. Je pourrais continuer comme ça, ouais. Mais partout ou presque, on nous disait qu'il s'agissait de records pour une aussi courte période.
Et comment a-t-on fait pour marier autant de personnes en si peu de temps? Parce que non seulement une cérémonie de mariage, bien, ça prend quand même du temps, il y a des formalités à respecter. On ne peut pas juste se présenter à l'église en disant « j'aimerais épouser cette personne ».
Bien, il y a une chose qui est frappante dans tout ce que j'ai lu, c'est l'attitude du clergé catholique. C'est une institution, on va se le dire, qui au fil des siècles ne s'est pas toujours fait remarquer par sa grande flexibilité. Mais pendant cette fin de semaine de magie-là, il n'y avait pratiquement aucune règle qu'on n'était pas prêt à contourner. On a expédié les formalités qui menaient au mariage, comme la publication des bans. On a vu des mariés arriver à l'église sans anneaux, sans témoins. Il n'y avait rien de tout ça qui dérangeait. On a marié des gens au téléphone.
Il y a eu des mariages téléphone. De
groupe. Oui, absolument. Il y avait la mariée était dans l'église.
Oui, allô.
Son prétendant était en Abitibi quelque part. On a eu son consentement au téléphone et pendant ces deux jours-là, c'était suffisant. Il y a eu des mariages de groupe. À certains endroits, on mariait simultanément dans l'église et dans la sacristie. Et on a procédé à des unions toute la journée du dimanche jusqu'à quelques minutes avant minuit. Mais c'était pas des vrais mariages. Mm-hmm. Comprenons-nous bien. Il n'y avait pas de messe. On n'avait pas le temps. On bénissait l'union et on passait au suivant. Je vous raconte comment ça s'est passé à Trois-Rivières, où 130 couples ont été mariés. C'est samedi soir que commença cette vague de mariages et quelques mariages furent bénis dans le cours de la soirée, tandis que plusieurs autres hâtèrent la date de leur mariage et payaient les dispenses nécessaires pour la publication des bans à la grande messe du dimanche pour se marier dans l'après-midi. D'autres publièrent les bans aux vêpres seulement et se marièrent dans la soirée. Les vêpres, c'est une cérémonie religieuse qui était célébrée fin d'après-midi, début de soirée. Il y a même un couple qui s'est présenté à l'évêché à 10h30 le dimanche soir. Ils ont été mariés une heure plus tard.
Comme à Vegas.
Mais c'était presque ça. On n'avait jamais vu des curés aussi accommodants. Et dans les sections modernes des journaux des semaines suivantes, on disait que beaucoup de couples s'étaient mariés dans la plus stricte intimité, les 13 et 14. On a vu ça beaucoup. On n'avait pas le temps de réunir la parenté ou quoi que ce soit. C'était « mariez-vous maintenant, célébrez plus tard ». On voyait aussi des cas de « monsieur un tel, madame un tel se sont mariés le 14 ». Ils avaient annoncé une date pour le 23 de ce mois, mais on a changé la date de la cérémonie et on en profitait dans l'annonce pour dire aux gens qui avaient reçu un faire-part pour le 23 qu'ils étaient invités à une réception à la date prévue. On faisait juste sauter la partie église, venez directement à la réception. Bon. Pour le reste, ça se passe comme prévu.
Au moins, on cancelait pas, on annulait pas la fête.
Oui, voilà, mais surtout si on avait déjà payé pour, là, oui. C'était un peu gênant.
Alors, est-ce qu'on sait qui était tous ces Québécois, toutes ces Québécoises qui se sont épousées en quatrième vitesse cette fin de semaine-là? On avait quand même pas plusieurs centaines de couples qui avaient déjà la date, la robe, les anneaux, les faire-part envoyés et qui pouvaient juste devancer la date du mariage.
Ah, je peux pas vous donner de proportion ou de pourcentage de la situation dans laquelle les couples se trouvaient. Je pense pas que cette étude-là a été faite, et c'est très dommage, mais on devait retrouver un large éventail de situations. Des gens en couple où monsieur se décidait pas à faire la grande demande et là, soudainement, il a trouvé la motivation nécessaire. Des couples qui étaient encore tôt dans leur fréquentation qui ont décidé de brûler les étapes. D'autres qui pensaient se marier éventuellement, on pourrait faire ça dans un an quand j'aurai fini mes études, qui se rendaient compte qu'ils n'avaient pas le temps d'attendre. Et il y a aussi eu un film tourné en 1959 qui s'intitulait « Il était une guerre » qui traitait notamment de cet épisode-là. Et le personnage principal, lui, voulait à tout prix éviter le service militaire. Il a demandé cinq femmes en mariage pendant le week-end et s'est fait dire non chaque fois. Oh. Et juste comme il avait perdu espoir, il a remarqué la voisine qui l'aimait en silence depuis longtemps et il a décidé que c'était mieux que rien. Et c'est une histoire, évidemment, mais il y a sûrement eu des cas plus ou moins comme celui-là qui ont inspiré le film. Est-ce que ça a fait des mariages heureux? Pas nécessairement. Mmh. D'autant plus qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, on se marie pour la vie.
Marcel, je vous arrête parce que dans vos notes, vous avez écrit que la voisine était jouée par Hélène Loisel, une actrice qui est formidable.
Tout à fait.
Ça donne envie de voir le film.
Je pense que c'était un de ses premiers grands rôles. Mais il est disponible sur le site de l'ONF.
Ah,
si
bonne...
jamais il y en a que,
merci.
Que ça intéresse.
Bonne suggestion. Mais donc, il était une guerre.
Voilà. Donc, mais comme je le disais, on peut bien décider de consacrer un mariage utilitaire, de contracter, dis-je bien, un mariage utilitaire avec la première venue pour éviter le service militaire. On allait peut-être devoir passer les 50 prochaines années avec elle ou avec lui. C'était un pensez-y bien. Et beaucoup de gens qui se sont mariés n'étaient pas prêts à le faire. C'était très improvisé. Les bijouteries ont été prises d'assaut. Ces magasins ont fait de nombreuses ventes au cours de la journée de dimanche, ainsi que plusieurs autres magasins de marchandises pour dames ou pour hommes qui, sans être ouverts officiellement, ont fait des ventes pour permettre aux couples de compléter leur toilette nuptiale, parce que le dimanche, tous les magasins étaient fermés en 1940, faut pas l'oublier.
Ouais.
Donc, encore là, d'autres entorses au règlement. C'était vraiment un week-end à nul autre pareil. Et le temps file, mais je veux terminer sur une anecdote. Il y a eu plusieurs anecdotes cocasses qu'on nous a racontées. Celle-là vient du journal Le Canada. On nous dit, Un vicaire d'une paroisse de l'île de Montréal dut attendre plus de 3 heures dimanche soir, donc dimanche soir le 14, pour bénir un mariage. Une jeune fille avait 2 prétendants, un ancien et un nouveau. Dès que la nouvelle du règlement sur le célibat arriva en ville samedi matin, la mère de la jeune fille, qui éprouvait beaucoup de sympathie pour le nouveau, lui déclara qu'il devait se presser de se procurer tous les papiers nécessaires afin d'épouser son ami. Le jeune homme demeura à Saint-Jérôme, il quitta pour la métropole en toute vitesse. Toutefois, il y eut un conflit familial pendant son absence. Le père de la jeune fille éprouvait beaucoup de sympathie, contrairement à sa femme, pour l'ancien. Il lui dit donc de tout préparer. Restait la jeune fille. Elle aimait les deux. Elle ne savait pas de quel côté faire balancer son cœur. Elle décida d'épouser le premier qui reviendrait muni de tous les papiers nécessaires et de son témoin. Et dimanche soir, à 10h30, on unissait la jeune fille avec le nouveau prétendant.
Bon, encore là, il y a eu un cœur éploré.
Ont-ils vécu heureux et ont-ils eu beaucoup d'enfants? Mais ça, l'histoire ne le dit pas.
Non, dans les contes, ça finit comme ça, mais pas dans la vie nécessairement.
Bien, peut-être pas dans un mariage qui se fait dans ces circonstances-là, disons.
C'était super intéressant, Marcel. Puis on va aller sur le site de l'ONF pour découvrir ce film qui met en vedette Hélène Loisel dans une amoureuse silencieuse, mais qui a finalement ouvert son cœur.
Absolument.
Merci, puis je vous dis à la prochaine. C'est Denis-Martin Chabot qui sera avec vous la semaine prochaine et dans les semaines à venir.
Parfait.
On va se retrouver à un moment donné.
Oui, on se reparle.
Avec le bon numéro. À bientôt.
Bye.